Professeur Jean-Damien Ricard, bonjour. Vous êtes PUPH dans le service de réanimation polyvalente à l'hôpital Louis-Mourier à Colombes. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast sur l'oxygénothérapie à haut débit. Première question, quelles sont les indications de l'oxygénothérapie à haut débit en réanimation?
Bonjour. Donc les indications de l'oxygénothérapie au débit en dehors de l'insuffisance respiratoire hypoxémique sont de mon point de vue de deux ordres. Il y a d'une part les autres formes d'insuffisance respiratoire aiguë, comme l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique, et également toutes les situations de décision de non-intubation pour lesquelles l'oxygénothérapie à haut débit peut trouver un débouché intéressant. En ce qui concerne l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique, il n'existe pas encore énormément de données dans la littérature, surtout en réanimation. On a plusieurs études maintenant, à la fois cliniques et physiologiques, chez le patient hypercapnique sévère mais stable, qui montrent que l'oxygénothérapie à haut débit a toute sa place, avec une amélioration significative des paramètres ventilatoires dans ces situations-là. On peut envisager l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique à la place de l'oxygène standard entre les séances de ventilation non-invasive ou alors, chez les patients peut-être un petit peu moins graves, à la place de la ventilation non-invasive, mais qui reste encore aujourd'hui le traitement de référence. Et donc, il faut attendre des études qui sont en cours, qui permettront de mieux préciser l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit dans cette indication-là. Pour ce qui est des décisions non-intubation, il existe plusieurs essais dans la littérature qui montrent à la fois la tolérance et l'efficacité de ce dispositif dans ces situations-là. On n'a pas encore d'études randomisées à large échelle, mais beaucoup d'équipes utilisent déjà l'oxygénothérapie à haut débit lorsqu'ils ont décidé de traiter un patient avec une insuffisance respiratoire aiguë et que la décision a été prise de ne pas recourir à l'intubation. Le deuxième ordre d'indication en dehors de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique correspond à toutes les situations procédurales où on va utiliser l'oxygénothérapie à haut débit comme support, soit pour corriger ou prévenir une désaturation. Au premier rang desquels, on a bien évidemment la préoxygénation pour l'intubation. On a plusieurs études qui montrent l'intérêt de cette technique dans cette situation-là, avec une diminution de la désaturation au cours du geste. Ce qui reste à préciser dans cette indication-là, c'est la combinaison ou pas avec la ventilation non-invasive. Quelques éléments d'études récentes tendent à montrer que la ventilation non-invasive reste supérieure à l'oxygénothérapie à haut débit chez les patients les plus sévèrement hypoxémiques. La deuxième procédure pour laquelle on a des données encourageantes pour l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit, c'est au cours des endoscopies bronchiques faites chez le patient vigile, et notamment en cas de lavage bronchoalvéolaire. Il y a des études en cours pour comparer très précisément l'AVNI à l'oxygénothérapie à haut débit, encore une fois, pour savoir dans quelle situation on préférera l'un dispositif par rapport à l'autre, l'oxygénothérapie à haut débit présentant évidemment une plus grande facilité d'utilisation et également de réalisation du geste par rapport à la ventilation non-invasive. Enfin, la troisième situation pour laquelle on commence à avoir des données, c'est au cours de l'aérosol thérapie, notamment au cas d'asthme aigu grave ou de décompensation de BPCO hypercapnique. On a des études physiologiques qui nous viennent de l'équipe de Tours qui montrent la faisabilité de générer l'aérosol par l'oxygénothérapie à haut débit et on est en attente d'études cliniques avec des outcomes forts permettant de préciser l'intérêt et la supériorité de ce dispositif par rapport à l'oxygénothérapie conventionnelle.
Quels sont les avantages et inconvénients de cette technique?
Je vois trois avantages majeurs à l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit et qui expliquent pourquoi cette technique a été si facilement adoptée par les cliniciens dans les différents services, alors même que les données dans la littérature étaient encore peu importantes. Le premier avantage, c'est la simplicité d'utilisation de ce dispositif. Et lorsque l'on prend en charge un patient en détresse respiratoire aiguë, il est clair que ce dispositif s'installe et se met en place beaucoup plus facilement que la ventilation non-invasive. Et il y a moins besoin de connaître tous les rudiments de cette technique pour pouvoir l'utiliser très rapidement. Le deuxième avantage majeur, et qui a été très rapidement observé par les cliniciens, c'est justement son efficacité clinique au quotidien, avec un soulagement très rapide de la dyspnée des patients en insuffisance respiratoire aiguë, et une efficacité clinique, même si encore une fois à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de démonstration de sa supériorité par rapport aux autres dispositifs. Et le troisième avantage, c'est que, et ce sera un clin d'œil à la réponse à la question suivante, c'est qu'il y a justement peu d'inconvénients à cette technique, très peu d'effets indésirables qui relèvent essentiellement d'intolérance du dispositif lorsque le débit est trop important, mais en dehors de ça, très très peu d'inconvénients à cette technique. Et si on devait répondre de façon plus générale à la question, ou plus franche à la question, quels sont les inconvénients, il y a éventuellement le dimensionnement du parc de ce dispositif à avoir, sa place par rapport à la ventilation non-invasive, et encore une fois, le nombre d'appareils qu'on veut en fonction du nombre de lits sont peut-être des éléments pour lesquels on n'a pas encore de réponse à cette question.
Comment utilise-t-on l'oxygénothérapie à haut débit en pratique? Quels sont les réglages? Quelles sont les contre-indications? Comment surveiller? Et quels sont les critères de sevrabilité?
Les réglages sont pour moi un point clé lorsqu'on aborde la question de l'oxygénothérapie à haut débit. En effet, toutes les études physiologiques ont clairement montré que les effets bénéfiques de l'oxygénothérapie à haut débit étaient débit dépendant, c'est-à-dire que plus le débit est élevé, plus l'effet bénéfique est important. Et donc cette constatation plaide évidemment pour l'utilisation de débits élevés, de l'ordre de 50 à 60 litres par minute, qu'on adaptera ensuite bien sûr en fonction de la tolérance du patient. Et dans ces cas-là, il faut se rendre compte que toute utilisation de débit inférieur chez des patients très graves, qui pourrait conduire éventuellement à l'échec et à l'intubation du patient, ne relève pas forcément de la limite de la technique, mais encore une fois, d'un réglage qui serait inapproprié. Donc encore une fois, si le patient le tolère, je pense qu'il faut démarrer l'oxygénothérapie à haut débit avec un débit très important, quitte à le réduire si le patient exprime une certaine gêne devant ces débits élevés. Concernant le sevrage, il reste encore très peu de données dans le domaine. Ce qu'on sait, c'est que il faut évidemment aboutir à une baisse suffisante de la FiO2 et du débit pour pouvoir envisager l'arrêt de cette technique. Pour ce qui concerne de la FiO2, je pense qu'il faut se rapprocher de ce qu'on fait pour la ventilation mécanique invasive. Et donc, lorsqu'on est à moins de 40% de FiO2, on peut raisonnablement envisager d'arrêter cette technique. Et en ce qui concerne le débit, en pratique, entre aux alentours de 30 litres par minute, je pense que c'est un seuil à partir duquel on peut envisager de passer à l'oxygénothérapie standard. On sait qu'il y a des différences observées en termes d'efficacité entre un patient qui respire par la bouche ouverte et l'autre avec une bouche fermée. On comprend évidemment que bouche ouverte, on va avoir une perte de pression, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les résultats positifs qui ont été obtenus dans la littérature l'ont été sans aucune recommandation particulière des patients, et que les patients en détresse respiratoire respirent souvent bouche ouverte. Donc il faut considérer que les résultats positifs ont été obtenus dans ces conditions-là, et donc il n'y a pas nécessairement de recommandation à donner aux patients. Il va respirer la façon dont il est le moins inconfortable. Au début, ça sera bouche ouverte, et petit à petit, au cours de son amélioration, il sera bouche fermée. En dehors des situations très particulières de traumas faciaux pour lesquels on pourrait imaginer, encore une fois, uniquement d'un point de vue théorique, que d'avoir un débit très élevé de l'ordre de 60 litres par minute puisse entraîner un emphysème sous-cutané ou de trajet du débit d'oxygène dans les parties molles, en dehors, encore une fois, de cette situation très particulière, je ne vois aucune contre-indication à l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit. Il y a une situation de non-indication qui serait la décision d'intuber immédiatement le patient, mais encore une fois, comme on l'a dit précédemment, cette technique peut servir de façon efficace à la préoxygénation pour intuber le patient. Donc même lorsqu'on s'apprête à intuber un patient, il n'est pas illogique de mettre en place l'oxygénothérapie à haut débit, même si on sait très bien qu'on va finalement intuber le patient. La surveillance de cette technique est avant tout clinique. On va s'assurer d'une part de la régression des signes de détresse respiratoire, la disparition d'un tirage, la diminution voire l'abolition du balancement thoraco-abdominal et bien évidemment l'augmentation de la saturation pulsée en oxygène. On peut, si on craint une hypercapnie associée, bien sûr contrôler cela par des gaz du sang, mais il n'est pas utile de répéter de façon importante les gaz du sang. La simple surveillance de la saturation suffit dès lors qu'elle s'accompagne d'une amélioration des signes cliniques et d'une diminution de la fréquence respiratoire. On a avec un collègue espagnol établi un index qu'on appelle l'index ROX qui correspond au rapport de la saturation pulsée en oxygène par la FiO2, l'ensemble divisé par la fréquence respiratoire, qui est un index qui est facilement calculé au lit du patient, qui peut être fait par l'infirmière et qui peut être répété autant de fois que nécessaire dans le temps. Ce qu'on a montré dans une large étude multicentrique, c'est que lorsque ce rapport est supérieur à 4,88 à la 12e heure, il est alors prédictif d'un succès de la technique. Inversement, lorsque à la 12e heure, cet index est inférieur à 3,85, alors les patients étaient beaucoup plus fréquemment intubés. Comme tout index, il a ses limites et il doit être également confronté aux autres éléments cliniques, mais c'est un élément sur lequel on peut se baser pour apprécier la surveillance et l'efficacité de cette technique. Les critères d'échec découlent finalement de ces éléments de surveillance, et comme je l'ai dit, la persistance d'une détresse respiratoire, d'un balancement thoraco-abdominal, d'un tirage, d'une fréquence respiratoire élevée, sont autant d'éléments qui doivent alerter le clinicien et se dire que peut-être il est temps de passer à une ventilation mécanique invasive. Et comme je l'ai dit à l'instant, l'index ROX peut également être utile pour détecter et identifier un échec lorsque cet index est inférieur à 3,85. On peut également apprécier une dynamique d'évolution de cet index, puisqu'on s'attend à ce qu'il augmente avec l'amélioration clinique des patients. Et donc lorsque cet index n'augmente pas du tout au cours du temps, on peut le répéter après une heure ou quelques heures de la technique, encore une fois, lorsqu'il reste inférieur à 3,85, alors il est prédictif d'une intubation des patients.
Professeur Jean-Damien Ricard, la Commission Jeune vous remercie d'avoir participé à ce podcast sur l'oxygénothérapie à haut débit.